Vendredi 20 novembre 2020, il est 18h à Niamey. Merci de votre fidélité au studio Kalangou. Le journal vous est présenté par Assoumana China. Le Niger a fait des avancées dans la promotion des droits des enfants, déclare le coordonnateur de l'ONG EPA de Sidiku Moussa à l'occasion de la célébration ce 20 novembre de la Journée mondiale des droits de l'enfant. Dans ce journal, nous irons à Tilia, région de Tawa, où la rentrée scolaire 2020-2021 n'est toujours pas effective à cause de l'insécurité dans la zone. Œuvrer en faveur de la réduction des inégalités au Niger, c'est l'objectif que se sont assignés l'ONG internationale Oxfam Niger et les organisations nationales de la société civile à travers leur plateforme dénommée Alliance contre les inégalités. On en parle en partie magazine de cette édition. Chaque 20 novembre est fêtée la Journée mondiale des droits de l'enfant. Pour rappel, le 20 novembre 1989, les Nations Unies ont ratifié une convention relative aux droits des enfants. 30 ans après sa ratification, le Niger a fait des avancées, notamment l'adoption d'une politique nationale de protection de l'enfant et la politique de protection juvénile. Sidiku Moussa, coordonnateur national de l'ONG EPAD Niger, estime qu'il reste encore beaucoup à faire.
Du point de vue de l'éducation, il y a eu un bond significatif, surtout concernant l'éducation de la jeune fille. Du point de vue institutionnel, il y a également eu l'adoption de beaucoup de politiques, notamment la politique nationale de protection de l'enfant et la politique de protection judiciaire et juvénile. Ces avancées ne doivent pas cacher certaines réalités. Les statistiques de 2019 prouvent à suffisance qu'il y a matière à faire.
Dans le cadre de cette journée internationale des droits de l'enfant, notre reporter s'est rendu sur le site des sinistrés de l'inondation de Kirkisoy, le camp Gamou. Le président du comité d'organisation des sinistrés, Adamou Sibiri Namata, déclare que les droits des enfants sont respectés sur leur site. On l'écoute au micro de Refika Attaher.
La situation des enfants, je dirais que ça va, parce que ils sont dans des conditions pas mal par rapport à la vie qu'ils menaient avant d'être ici. Tout celui qui a quitté sa maison et qui se retrouve dans un terrain qui n'est pas son domicile propre à lui va rencontrer quelques petites difficultés. Mais dans l'ensemble, alhamdoulilah, ça va. Ils vont à l'école ici. Il y a une école qui a été érigée à l'occasion. C'est de la maternelle jusqu'en CM2. Et il y a un centre de santé aussi ici qui les prend en charge au cas où l'enfant est malade ou qu'il est blessé. Il y a des soins qu'on les fait ici. Il y a une activité qui a été prévue mais qui n'a pas encore vu le jour. Mais nous sommes en pourparlers avec un gars qui a un centre de formation en couture qui nous a promis qu'il va venir pour occuper les enfants, les jeunes filles et autres. Donc on est en train de réfléchir à ça et trouver un endroit où on va ériger des tentes pour que les enfants puissent s'occuper, Inch'Allah.
Plus d'un mois après la rentrée scolaire au Niger, les régions touchées par l'insécurité connaissent une rentrée timide. À Tilia, dans la région de Tawa, la rentrée s'est faite de façon progressive. Mohamed Azimzim, notre correspondant à Tilia, joint au téléphone par Salamatou Kadri.
Malgré l'insécurité, on a constaté vraiment une reprise progressive des cours. Presque toutes les écoles ont réouvert, malgré ceux qui sont sur la zone frontalière entre Tilia et sur la frontière du Mali. Et nous avons quelques écoles, notamment, qui n'ont pas pu ouvrir à cause de l'insécurité. À ce qui concerne les autres écoles, la rentrée progressivement commence à se faire. Néanmoins, vraiment, les parents sont déplacés, mais ils commencent petit à petit à revenir fréquenter leurs enfants. Vous savez, ici, nous avons un gros centre qui a été créé à cet effet, une école qui accueille presque les réfugiés maliens et les déplacés internes, où presque tous les parents amènent leurs élèves pour qu'ils soient en sécurité là-bas. Nous avons au moins les forces de sécurité qui patrouillent dans la zone, donc cette zone est un peu sécurisée. C'est là-bas où presque tous les parents d'élèves qui sont à l'ouest là affluent pour faire inscrire leurs enfants, puisqu'ils sont pris en charge par les humanitaires.
Hier jeudi, vers 8h du matin, deux hommes armés non identifiés sur une moto se sont introduits dans le centre de santé intégré de Dingazi, département de Wallam, et y ont enlevé l'unique ambulance de la commune. Écoutons Zachary Ali, le maire de Dingazi, joint au téléphone par Talata Abdou Bahar.
Ça impacte vraiment de façon négative les urgences, puisque même hier, l'ambulancier s'apprêtait à évacuer des malades au district de Wallam. Lorsque ces individus-là étaient arrivés au CSI, ils ont demandé à l'ambulancier de faire descendre les malades là et ils ont payé l'ambulance. quel est le sort donc réservé à ces malades-là? Et c'est des enfants qui souffrent d'anémie déjà. Vous voyez ce que ça fait comme mal. Et au moment où les motos ne circulaient pas dans la zone, il y a jusqu'à 4 CSI dans la commune. Il y a le CSI de Dingazi, Gebberi, Parka et Pazo. C'est la seule ambulance dont dispose la commune. Et nous souhaitons aussi en tout cas avoir une autre, sinon d'autres ambulances pour vraiment prendre en charge les éventuels malades.
Cette année, la fête tournante du 18 décembre aura lieu à Diffa. La ville va ainsi bénéficier de nombreuses infrastructures urbaines, parmi lesquelles la rénovation de l'aéroport régional ainsi que la construction des chambres froides pour la conservation et la commercialisation des produits. Des réalisations à fort impact économique pour la région, selon le président du comité d'organisation de Diffa Ingla, Abdoulawone Marouma, au micro de Farid Bourema.
Ça permettra d'accueillir, après rénovation, tout type d'avion qui est en circulation dans la zone. Et quand vous prenez la position de la ville de Diffa, sur un certain nombre d'axes de transit de grandes compagnies internationales, c'est un point idéal pour faire escale et faire le refueling. Et voilà pourquoi nous avons créé les conditions pour que cet aéroport-là puisse servir à ce genre d'activité. Sans compter que nous avons prévu la construction d'un certain nombre de chambres froides qui vont nous permettre d'exporter partout où on voudra du poisson frais, au lieu de le faire sous forme fumée, tel qu'on est en train de le faire aujourd'hui, de pouvoir exporter du poivron frais, au lieu de le faire sécher en train de surplomber des camions sur des hauteurs de 10-15 mètres.
Après le rejet de plusieurs listes de candidats aux élections municipales à Niamey, certains partis politiques ont fait des recours auprès des tribunaux. La majorité a eu gain de cause. Ainsi, à Niamey, parmi les 55 partis politiques, 41 ont rectifié, dont 6 rejetés à nouveau. Le secrétaire général du gouvernorat de Niamey, Bourema Zirkaleni, explique au micro de Habibou Garba.
Effectivement, après les premiers résultats qui étaient sortis, il y a eu beaucoup qui ont eu des listes rejetées et la loi leur permettait de faire un recours pendant les 24 heures qui suivaient la publication. Donc, il y a eu 41 qui ont fait des recours et Dieu merci, sur les 41 qui ont fait des recours, il y a eu un accord pour 35 et 6 qui n'ont pas eu donc d'accord. Je pense qu'on peut dire que c'est satisfaisant, parce que maintenant on peut dire que la majorité des partis qui ont postulé pour Niamey vont effectivement se présenter avec les listes complètes. C'est cette liste par arrondissement communal. Donc si par exemple on rejette pour un parti la liste pour l'arrondissement communal Niamey 1 et qu'il y a eu des recours sur cette liste, sûrement que c'est cette liste qu'on va ressortir en reproduisant exactement les 14 candidats pour dire que voilà, ça a été rectifié, tous les 14 candidats peuvent se présenter. Donc c'est ça les noms que vous avez sur les listes.
Ouverte le 31 octobre passé, la campagne électorale pour la présidentielle prend fin ce vendredi 20 novembre à minuit au Burkina Faso. La lutte contre le terrorisme constitue le menu phare de la campagne électorale chez tous les 13 candidats à liste, explique Paul Miki Rwamba, journaliste directeur de la radio Ouaga FM et de la télévision LCA à Ouagadougou, joint au téléphone par Mokhtar Hamadou.
L'animation de la campagne, en tout cas, elle est faite aussi bien à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, dans les grandes villes, mais également en milieu rural, puisque les 13 candidats ont investi un peu l'ensemble du pays pour battre campagne sous les signes de la lutte contre le terrorisme. C'est la principale thématique qui mobilise les différents candidats, puisqu'ils ont conscience que c'est la première préoccupation des Burkinabés en ce moment. De l'autre côté également, il faut dire que ce n'est pas une campagne électorale avec beaucoup d'enjeux, parce que ça ne se passe pas sous fond de crise, de contestation ou d'exclusion. Des observateurs même estiment que ce sont les élections les plus ouvertes au Burkina, parce que contrairement à ce que l'on a vu en 2015 où il y avait certains candidats qui avaient été exclus par la loi électorale, cette année, tous les candidats qui ont déposé leur dossier de candidature ont vu leur dossier validé, à l'exception de ceux qui ne remplissaient pas certaines conditions comme la caution de 25 millions de francs CFA payés ou les documents administratifs qu'il fallait fournir.
Dans le cadre du projet Expression culturelle transfrontalière entre le Niger et le Burkina Faso, l'organisation Terre des Hommes Italie a mis à la disposition des 40 start-up nigériennes issues des régions de Tawa, Niamey, Maradi, Agadez, la somme de 28 millions de francs CFA. Qu'est-ce qui justifie le déboursement de ces fonds au niveau de l'organisation? Maman Issoufou Halilatou, coordinatrice du projet Expression culturelle transfrontalière, répond à Olivier Assogbavi.
En réalité, c'est un projet européen transfrontalier qui fait la promotion de la paix, l'inclusion sociale et le développement, qui fait valoriser la valeur culturelle et qui fait émerger les jeunes talents artistes en herbe. Donc, à travers ce projet, il y avait un paquet de formations et un paquet d'accompagnement des jeunes artistes et également leur donner l'occasion à travers ces paquets de formations qu'ils ont réussi à pouvoir entreprendre pour s'autonomiser et se prendre en charge à travers ce qu'ils ont l'art de développer via leur passion.
Et bien, quelles sont vos attentes naturellement à la fin de cet accompagnement?
Sachez que nous travaillons avec un certain nombre de partenaires. Déjà, nous avons l'incubateur Shipman qui va les accompagner et qui va les aider à d'abord former leur entreprise et à commencer les toutes premières activités des entreprises.
Hey Issa, cette histoire de Covid-19 me rend malade. J'ai peur, je me sens mal tout le temps et sans te mentir, j'ai peur de tout le monde. Je ne fais que lire les infos sur cette maladie sur les réseaux sociaux.
C'est normal d'avoir peur. Depuis le début de cette pandémie, je t'ai souvent répété de faire attention à tout ce que tu lis sur les réseaux sociaux. Ce sont des fausses informations pour la plupart.
Mais que dois-je faire? Où aller alors pour me tenir informé?
Informe-toi sur le site officiel de l'Organisation mondiale pour la santé et les plateformes d'information des autorités de santé du Niger. La connaissance des faits peut t'aider à réduire la peur.
Cette fois-ci, je tâcherai de suivre tes conseils. Je me rends compte qu'il y a tellement d'informations et de fausses rumeurs qu'il faudrait qu'on lutte contre la désinformation. En effet, à cause de la peur, je dors moins et je suis tout le temps fatiguée.
Une dernière chose. Pense à tout ce que tu as vécu de positif dans la journée et prends la vie du bon côté. Focalise toute ton énergie à sensibiliser les gens sur les mesures préventives à respecter. Rappelle aux gens que la maladie existe toujours et que l'assouplissement de certaines mesures prises par l'État ne doit pas rimer avec le lâchement des gestes barrières.
D'accord, merci Issa.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
Place à présent à la partie magazine de cette édition. L'ONG International Oxfam Niger et une trentaine d'organisations nationales de la société civile s'engagent à lutter contre les inégalités dans le pays à travers une plateforme mise en place dénommée Alliance contre les inégalités. Nous avons initié cette campagne contre les inégalités afin de nous engager avec les différents candidats aux élections présidentielles et législatives pour obtenir un engagement fort à œuvrer en faveur de la réduction des inégalités, déclare le directeur pays par intérim d'Oxfam Niger, Chiroma Ali Amadou, au micro de Mokhtar Hamadou.
Dans chaque angle, que ce soit l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'énergie, nous avons toujours ces inégalités-là qui persistent. Mais le plus souvent, les gens voient seulement en surface un certain nombre d'inégalités qui sont là. Mais si on parle d'inégalités, on parle de questions de droit. Ça veut dire que la société, la communauté, que tu sois fille, garçon, personne âgée, vous avez un certain nombre de droits que la loi fondamentale a pu consacrer. Mais malheureusement, il y a une méconnaissance et encore, nous sommes en train de pousser, d'aller vers des plaidoyers, à influencer les autorités politiques, à prendre ça en charge, à les considérer et à s'engager pour apporter des solutions.
Quelles sont les couches de la société les plus exposées aux inégalités?
Bon, nous avons fait des assessments, il y a des analyses qui sont là, parce que si on prend le terme inégalité, c'est vraiment un terme très large. Mais si vous regardez partout, si on parle des inégalités, là où ça pèse beaucoup, c'est quand même sur la femme, sur la jeune fille, sur la jeunesse, qu'on retrouve beaucoup plus à mettre accent sur ces inégalités, parce que c'est là-bas où la plupart des grandes organisations, que ce soit les ONG internationales, les systèmes des Nations Unies, que ce soit ONG locales, que ce soit les programmes de politique, des dirigeants politiques, toujours nous cherchons quand même à évaluer l'impact de nos actions sur la femme, sur la jeune fille, sur la jeunesse.
Est-ce qu'il y a des indicateurs de perception de ces inégalités au sein de nos sociétés?
Oui, il y a des études statistiques qui montrent les différentes inégalités qui sont là et qui sont persistantes. Et c'est pour cela, en analysant, nous sommes en train de faire une hiérarchisation pour juger et tirer au moins les 10 inégalités essentielles qui pèsent sur notre société.
Un monde ou un pays sans inégalité est-il possible?
Comme disait tantôt, le risque zéro n'existe pas. Même dans les inégalités, on ne peut pas dire qu'on peut arriver à un monde à inégalité zéro. Mais il faut quand même travailler, il faut être optimiste. En s'investissant, c'est sûr, nous allons essayer de réduire les formes des inégalités et les inégalités qui sont persistantes dans nos sociétés.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie.